Bonjour et bienvenue sur cette émission qui vous est proposée par le Cercle de Lecture de Confluence. Je vous rappelle que ce Cercle de Lecture se réunit une fois par mois pour échanger autour d'un livre et qu'ensuite certains des membres de ce Cercle se réunissent dans les locaux de CFM pour échanger autour de ce livre. Confluence est une association qui a été créée par Maurice Petit en 1990. Elle concentre ses activités sur la création, l'organisation et la diffusion de manifestations littéraires. Un des temps forts de la vie de Confluence, c'est les Lettres d'automne, dont la 23e édition va se dérouler prochainement du 18 novembre au 1er décembre. Cette édition est consacrée à Albert Camus, dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Elle s'intitule « Albert Camus, notre contemporain ». Un programme papier de 54 pages, c'est vous dire la richesse et la diversité de ces Lettres d'automne, est disponible. Vous le trouverez aussi sur le site de Confluence, www.confluence.org. Je crois que tout est prêt maintenant pour ce festival.
Oui, donc le festival Lettres d'automne consacré cette année à Albert Camus commence dans un mois, comme on vient de l'entendre. Les réservations pour le festival sont ouvertes auprès de Confluence et en ligne sur le site internet www.confluence.org. Une quarantaine de manifestations sont gratuites. Des rencontres, des lectures, des spectacles, mais il est toutefois nécessaire de réserver car les places sont limitées. Pensez aussi aux passes festival et passes découvertes qui sont très avantageux.
Voilà, alors parmi les invités de cette 23e édition des Lettres d'automne, il y aura Raphaël Jérusalmi. Et Raphaël Jérusalmi est l'auteur de Sauver Mozart. Sauver Mozart, c'est le livre sur lequel nous allons échanger aujourd'hui. Quelques mots d'abord sur Raphaël Jérusalmi. Il est né à Montmartre en 1954. Il est diplômé de l'École nationale supérieure et de la Sorbonne. Il a fait carrière au sein des services de renseignement militaire israélien. Comprenez que ça veut dire les services secrets. Avant de mener des actions de caractère humanitaire et éducatif. Il est aujourd'hui marchand de livres anciens à Tel Aviv. Sauver Mozart est son premier roman. Il a été traduit en anglais, en italien, en hébreu, il a été primé, il a obtenu le prix Emmanuel Robles. Alors ce prix Emmanuel Robles, c'est un prix qui récompense un auteur de premier roman auquel il offre une bourse qui lui permet de poursuivre son œuvre de romancier. Parmi les lauréats de ce prix, on reconnaît Nina Bourouaï, Philippe Besson, qui en 2001 a eu le prix pour En l'absence des hommes, Soazie Gaharon pour Le nom de Clara, Hugo Boris, Le baiser dans la nuque, qui avait eu le prix aussi du lycée Michelet, Carole Martinez pour Le cœur cousu, qui a eu un gros succès chez Gallimard. Hélène Grémillon pour Le confident chez Plon, qui a eu aussi un gros succès. Et l'année dernière, François Garde pour Ce qu'il advint du Sauvage Blanc, qui a été publié chez Gallimard. Raphaël Jérusalmi vient de publier La confrérie des chasseurs de livres, chez Actes Sud. C'est un livre pour lequel il a été invité à la Grande Librairie, l'émission littéraire de France 5, le 26 septembre dernier. Vous pouvez regarder cette émission de nouveau sur Internet. C'est un livre dans lequel il entraîne le lecteur dans un voyage épique aux côtés de François Villon. François Villon, premier poète des temps modernes, dont Kléber Adens a écrit qu'il était le seul cambrioleur professionnel qui ait légué une grande œuvre à la littérature française. En effet, Villon a été aussi un brigand notoire, appartenant à la bande des coquillards. Il a été condamné en 62 à la pendaison à l'âge de 31 ans, mais son jugement a été cassé en 1463 pour le bannir de Paris. Et là, on ne sait jamais ce qu'il advint de lui. Et c'est là qu'interviennent l'imagination et la verve d'un auteur inspiré comme Raphaël Jérusalmi, qui va lui façonner, lui, un destin palpitant. Alors Aline, je crois que vous êtes en train de lire ce livre. Quelles sont vos premières réactions sur cette confrérie des chasseurs de livres?
Bon, mais comme vous venez de le dire, c'est une histoire inventée par l'auteur et qui imagine ce qu'est devenu le sort de Villon à partir du moment où on perd sa trace en France. Et dans ce livre, donc, Villon, avec son ami, un coquillard aussi, va être entraîné dans une aventure que je dirais un peu rocambolesque. Bon, je n'ai pas fini le livre, donc je ne peux pas en connaître le sens définitif. Pour l'instant, j'en suis à cet aspect très, très aventure, pourquoi pas dire un Far West, mais qui se passerait en Palestine. Et on voit Villon, qui pourtant, normalement, maîtrise bien les situations, entraîné un peu malgré lui dans une affaire qui le dépasse et dont il ne comprend pas trop les enjeux. Il est parti au départ avec une mission, mais on sent très bien qu'il est dépassé. Et on entre dans un... dans un monde un peu très mystérieux, dans le monde très mystérieux de cette confrérie des chasseurs de livres, qui est une confrérie dans laquelle on essaie de répertorier, de récupérer tous les livres depuis le début de l'écriture. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça, ce monde de livres précieux qui essaie de avec lesquels cette confrérie qui est dominée par les juifs essaie d'étendre un pouvoir et un réseau sur le monde entier.
D'accord. Voilà. Alors cette confrérie des chasseurs de livres, c'est donc le second roman de l'auteur de Raphaël Jérusalemi. On va s'intéresser aujourd'hui à son premier roman qui s'appelait Sauver Mozart. Je vous signale que c'est un livre qui est disponible en format de poche dans la collection Babel, qu'il fait 150 pages et que vous pouvez l'acquérir pour 6,70 €. Autour de la table, aujourd'hui, sont réunis Aline, Lolita, Geneviève et Jean. Bonjour.
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 Jean, est-ce que vous voulez nous résumer un peu l'histoire de Sauver Mozart avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, nous dire un peu de quoi il s'agit?
Oui, alors ce que je peux dire, c'est que le livre se présente comme le journal d'un personnage donc qui s'appelle Otto Steiner. La période est relativement courte au cours de laquelle il va écrire son journal, de juillet 39 à août 40. Mais juillet 39, août 40, dans l'histoire de l'Europe du XXe siècle, ce sont des moments très durs, enfin très 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 importants, très bouleversants. Et ce personnage donc va tenir au jour le jour son journal alors qu'il est dans un sanatorium, qu'il est très malade, tuberculeux. Et ce personnage, c'est un mélomane, critique musical très très reconnu, très amateur donc essentiellement de musique comme celle de Mozart, ce qui peut expliquer le titre. Alors, il se trouve à Salzbourg. Salzbourg, c'est la ville où Mozart est particulièrement célébré, et notamment chaque année au cours d'un festival. Lorsque les nazis arrivent au pouvoir, ils veulent maintenir ce festival, mais lui donner une couleur politique, on peut dire, hein, engagé. Et pour notre personnage, c'est complètement aberrant. Voilà un peu ce qui se passe, enfin comment se présentent les choses. Lui, il va être proposé pour écrire le programme de ce festival et pour choisir des musiques qui seraient jouées. Et il est pris donc, dans un mouvement qui le dépasse d'une certaine façon et dans des contradictions, puisque il est totalement opposé au fond de lui à l'idéologie nazie, et en même temps il doit jouer le jeu et écrire donc ce programme pour ce festival qui aurait une orientation, disons, politique. Et pour lui, Mozart, c'est l'opposé vraiment de l'idéologie, justement, et de l'embrigadement politique.
Oui.
Après, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il va essayer, avec ses moyens, de lutter contre cette emprise de l'idéologie totalitaire sur ce festival qui est, en principe, le contraire du totalitarisme, enfin de l'idéologie totalitaire.
Bien, donc on vient de rentrer directement maintenant dans le vif du sujet et dans le cœur du livre. Moi, je vais vous faire une petite confession, c'est que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans ce livre d'abord, parce que c'est que vers la page 60 environ que j'ai commencé à trouver qu'il y avait vraiment un véritable enjeu, un intérêt. Et ensuite, je l'ai lu un peu comme un polar. D'ailleurs, il y a des choses qu'on ne vous dévoilera pas, puisqu'il y a effectivement des coups de théâtre dans ce livre, et des coups de théâtre qui sont absolument surprenants et très bien organisés. Alors, j'ai l'impression de l'avoir lu sans doute un peu vite, parce que d'après ce que vous venez déjà de me dire, et je vous dirai en fin d'émission si vous m'avez incité à le relire ou pas. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer par d'approcher d'un peu plus près la personnalité de Otto Schneider. Vous voulez peut-être, Aline, en parler un peu, nous dire un peu qui il est. Est-ce que c'est un misanthrope? Comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il réagit vis-à-vis des autres malades qui sont dans ce sanatorium? Est-il juif? N'est-il pas? Quelle est un petit peu sa personnalité?
Oui, alors au cercle de lecture d'hier, une participante a présenté le personnage en disant, quand même, c'est un personnage abominable. Je crois que c'est le mot qu'elle avait employé. Et on a un petit peu discuté là-dessus. Évidemment, c'est un personnage qui, à première vue, n'est absolument pas sympathique et n'a pas beaucoup de considération ou de compassion pour ses voisins. Il décrit ses voisins avec toute leur laideur de malade. Bon, mais je ne partage pas tout à fait cette opinion, parce que ce regard sévère sur ses voisins malades, il le porte aussi sur lui-même. Donc il a sur lui-même beaucoup d'autodérision, de cynisme, qui fait qu'il faut creuser un petit peu plus et se demander si cette absence de gentillesse, de regard vers les autres n'est pas liée à un profond malheur intérieur. Ce personnage souffre de deux mots. En dehors de deux mots, sa tuberculose qui le cloue au lit dans cet hôpital sordide, mais il souffre d'un autre mal très profond, je pense, et c'est un mal d'identité. C'est un anti-héros, je pense qu'on peut peut-être le définir ainsi, et il le dit dans quelques passages, je vais enchaîner quelques passages pour essayer de définir sa personnalité telle que lui-même essaie de la construire. Est-il juif ou pas? Première question et première tentative de réponse. Personne ici ne soupçonne mes ascendances. Je suis tout de même allé vérifier à la mairie juste avant midi. Mon acte de naissance ne mentionne pas la religion de mon père. Mais il y a ma sœur Gertrude et son juif de mari. Je n'ai aucune nouvelle d'eux. Ils ont disparu d'un coup, sans prévenir. Pour l'Amérique, je crois. Un peu plus loin, il parle de son père. Mon père avait raison, en fin de compte, de vouloir se convertir. Un peu plus loin, je pense à Maria, à papa, à maman, à tous ceux qui ne sont plus là, qui sont morts avant tout ça. Et mon fils, il n'écrit plus. Il m'envoie une lettre de Palestine. Pardon, s'il m'envoie une lettre de Palestine, je serai interrogée, peut-être même arrêtée. Il ne me reste personne. Je vis entourée de moribonds, d'infirmières hargneuses, de soldats fringants, de citadins affairés, seuls, en coulisses. Je ne fais déjà plus partie du décor. Tout s'éloigne petit à petit, sans retour. Je ne suis ni juif, ni non-juif. Un peu par sa faute, allusion à son père. Au fond, je suis le seul de la famille qui n'ait pas d'appartenance, qui n'ait pas fait de choix. À quel clan se rattachent les tuberculeux? Quelle idéologie? Les grands malades forment aussi une caste, très égalitaire. Mais de quel bord sont-ils? Ont-ils seulement un programme? Je suis autrichien, de confession pstisique, et fier de l'être. Alors après ça, on est sans voix, je reprends quand même la parole, pour dire qu'on ne peut pas dire de ce personnage qu'il est abominable. Je pense qu'il a de grandes souffrances et qu'il fait avec.
Oui
c'est vrai, c'est bien que tu aies rappelé toutes ces petites phrases qui, à la première lecture, passent un peu inaperçues, et puis on se rend compte qu'il y a un vrai portrait qui a été dressé. Et justement, ni juif ni non-juif, il devient donc une sorte de représentant, de métaphore de l'humain, tout simplement. Et avec une question, Faut-il céder à la maladie? Comment affronter le monde extérieur? Et entre ces deux gouffres, finalement, hein, il essaie de faire un peu comme chacun, d'avancer pas à pas et de se construire un destin un petit peu digne. Je crois qu'on dépasse largement la question du juif ou du non-juif.
Oui. Alors, pour compléter ce que tu dis, moi, j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de passages où il insiste sur le fait qu'il se sent à part, qu'il se sent différent, qu'il se sent hors de la foule des hommes. Hein. J'ai retenu un passage là où il dit « Je les envie ceux qui respirent à plein poumon, qui marchent sans effort. Le monde leur appartient, ils n'ont qu'à tendre la main. Les défilés, les fêtes nationales, les bals troupiers, les balades en forêt... Tout cela m'est interdit désormais. Et pourtant, j'ai été comme eux. Quand j'étais bien portant, normal. Et puis, d'un coup, j'ai été proscrit, marqué, par la maladie. Du jour au lendemain, contaminé, plus bon à rien, plus bon à grand chose, inutile. Et il ajoute, Hitler a raison. Les gens comme moi sont des poids morts, des parasites. Et il reprend, les gens comme moi.
Oui, mais c'est que... momentané, hein, quand même, hein, parce que on se demande si dans ce concert de choses bizarres et de personnages extraordinaires, si c'est pas lui qui est le plus saint d'esprit, au moins par son regard, sa lucidité et la justesse de ses remarques.
Et moi, dans ce que tu viens de lire, je vois vraiment un parallèle entre les tuberculeux et les juifs, et l'état des juifs, qui petit à petit ont été mis à part, et ça on le voit sans cesse tout le long du livre. Et pour rebondir sur ce que venait de dire Aline, sur l'intervention d'hier où a priori, le personnage apparaissait comme odieux. Pour moi, c'était quelqu'un de profondément humain. Déjà face aux autres malades, il se voyait en miroir et il est très difficile de ce rejet des autres malades. C'était peut-être aussi le rejet de sa propre maladie. Et ensuite. Certains ont dit qu'il n'avait pas de compassion, mais il est aussi, je ne l'ai pas pris comme cela. Je pense que dans des situations comme la leur, où on peut avoir peur d'être dénoncé, parce que ça se produit au niveau du sanatorium, où finalement on devient, comment pourrions-nous réagir chacun dans la même situation où c'est une question de survie? Qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est la question qui est toujours ouverte là-dessus.
Je vous rappelle que vous êtes sur CFM, vous êtes bien sur CFM et vous écoutez une émission qui vous est proposée par le Cercle de Lecture de Confluence. Nous sommes en train de parler de Sauver Mozart, un livre qui, premier roman, écrit par Raphaël Jérusalmi. Raphaël Jérusalmi qui est un des nombreux invités des Lettres d'automne qui se dérouleront cette année du 18 novembre au 1er décembre. Peut-être qu'on pourrait... Oui.
À propos des Lettres d'automne, on aurait deux ou trois petites informations supplémentaires.
Bien, je vous en prie.
Tout à l'heure, on vous a présenté le programme des Lettres d'automne, mais en marge, et plutôt en avant-programme, il y a deux manifestations. Le mardi 22 octobre à 20h30 à la médiathèque de Nègrepelisse, présentation du programme et projection du documentaire de Jean Daniel et Joël Calmette, Camus, la tragédie du bonheur. Et à partir du 7 novembre, en résonance avec le festival et la thématique S'engager, la Mémo et l'association Aïdos proposent une sélection de films et de documentaires. Vous trouverez toutes les informations concernant ces rendez-vous dans le programme du festival, disponible dans les librairies, à l'office de tourisme et dans divers lieux de Montauban, et sur le site internet que nous vous avons déjà communiqué.
Très bien, on revient au livre Sauver Mozart. Il y a un personnage qui est très important, au-delà de l'auteur du journal, c'est la musique. Et pour la musique, c'est bien sûr Mozart qui est mis en... le titre l'indique, Sauver Mozart, mais peut-être Jean voulait dire un mot sur le titre.
Oui, je voulais indiquer, enfin, expliquer, essayer d'expliquer un peu le titre. Sauver Mozart, donc c'est une sorte de, d'impératif. Que représente Mozart pour notre auteur et pour notre personnage? Il représente, il me semble, ce qu'il y a de meilleur dans la culture européenne, disons. C'est-à-dire que Mozart, c'est l'artiste qui échappe totalement à tout pouvoir totalitaire. Enfin, en tout cas, c'est l'artiste qui ne plaît certainement pas, qui ne peut pas plaire à un dictateur.
C'est la liberté.
Et voilà. Chez Mozart, il y a une liberté, une fantaisie aussi, et un bonheur de créer, de vivre, une joie de vivre, qui sont impossibles à en régimenter. Cet amour de Mozart, parce que Mozart, c'est le musicien qui exalte la liberté, et notamment, il y a un passage très célèbre dans Don Juan où le personnage chante « Viva la libertà », donc « Vive la liberté ». Une des caractéristiques aussi qu'il souligne à propos de Mozart, c'est ce qu'on appelle en italien « scherzo », c'est-à-dire la plaisanterie, enfin le goût du rire, mais du rire libérateur, du rire qui exalte donc encore une fois la joie de vivre. Et ce qui le révolte à notre personnage, c'est que je l'ai dit tout à l'heure déjà, les nazis veulent faire du festival un outil de propagande. Et donc il y a un passage où justement il dit qu'il est révolté que les nazis veuillent faire du festival un vulgaire outil de propagande, un amusement troupier. Prendre Mozart en otage, l'avilir ainsi, n'y a-t-il donc personne pour empêcher un tel outrage? Cette fois-ci, il dépasse les bornes, on peut tout de même pas les laisser faire une chose pareille sans s'insurger, sans réagir. Il faut mettre fin à cette mascarade, à tout prix, il faut sauver Mozart. C'est là où apparaît donc le titre du livre.
Je voulais juste faire une petite intervention, rebondir sur le terme que tu as expliqué, ce scherzo, qui est l'humour, enfin, c'est ça.
Donc, oui, c'est ça, c'est la plaisanterie.
La plaisanterie, et bon, parce que les extraits que l'on vient de lire peuvent sembler un peu lourds, mais c'est très, il y a beaucoup d'humour dans ce livre, un humour quelque peu cynique, quelque peu froid, enfin par moments, mais il fait passer beaucoup de messages par l'humour aussi, hein. Donc c'est un livre qu'on peut lire aussi de façon malgré tout agréable.
Pour aller dans ton sens, Jean, on a entendu Don Juan et comme nous allons amorcer les lettres d'automne, que nous aurons l'occasion de rencontrer Raphaël Jérusalmi qui va venir à Montauban, je voulais rappeler que pour Camus, Mozart est le musicien absolu aussi, et dans l'œuvre de Mozart, c'est justement Don Juan.
Ah oui.
Donc ça tombe vraiment très bien. Et peut-être on peut s'interroger là sur aller un petit peu plus loin sur ce thème de la musique dans ce roman pour voir ce qu'elle représente, ce qu'elle incarne.
Oui, pour faire encore un parallèle avec Camus, le livre pose, mais indirectement, le problème de la place de l'artiste dans un régime totalitaire. Comment doit-on se comporter? Comment quelqu'un qui aime l'art et qui veut créer doit-il se comporter dans un régime qui impose qui bride totalement la liberté. Donc il y a deux possibilités, ou bien on s'oppose violemment tout de suite, mais dans ce cas-là on est éliminé très rapidement, ou bien on essaie de jouer un double jeu. On accepte des compromis. On accepte d'être hypocrite, mais en essayant, à travers ces gages qu'on semble donner au pouvoir, de créer quelque chose, d'ouvrir une voie. C'est ce qu'a choisi notre personnage. Et c'est peut-être ce qui le rend, au premier abord, antipathique, parce qu'on a l'impression que c'est un collabo. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Il a choisi, lui, d'agir un peu comme une taupe, hein, et finalement, d'exprimer sa révolte, mais d'une manière indirecte, en se cachant.
Oui, pour moi, à propos de musique, on pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses, mais je trouve que ce livre traite le thème de la résistance. La résistance, là où l'on est, même défaillant, même malade, il y a possibilité d'être toujours, toujours humain.
Oui.
Et donc on peut aller vraiment très loin philosophiquement avec les réflexions que propose le personnage. Mais en même temps, il me semble qu'un des intérêts pour moi à propos de musique, c'est que l'auteur incarne vraiment la nécessité de l'art et donc de la musique à travers ce personnage qui essaie de se survivre à lui-même, qui vit à côté de lui. Je ne sais plus si on est au premier ou deuxième étage. En chantonnant. Le fait de chantonner met de l'air dans les bronches. Donc, autrement dit, c'est la musique qui le fait survivre. Et il dit à un moment, voilà, comme quoi il faut de toutes les manières stimuler les forces intellectuelles que l'on a. Le vieux d'à côté est mort pendant la nuit, sans broncher, sans nous réveiller. Il n'aurait jamais dû cesser de chantonner. Se taire lui a bouché les bronches.
Et juste avant, il avait parlé de cette ritournelle que chantait le vieux, et il s'était dit « Je pourrais écrire un article là-dessus, un essai, musique et mémoire, ou quelques gammes, et c'est là que l'humour apparaît, sonate pour poumon à vent, et gosier phtisique. »
Oui. Voilà. Et toujours sur le même thème, donc ce vieux qui est en train de mourir à ses côtés, donc chantonne cette chanson toute la nuit et il en a assez, c'est insupportable, et puis finalement il finit par comprendre. Et au moment où il comprend, il dit « Au bout d'un moment, je me suis aperçu que cette rengaine l'aidait à mieux respirer. Elle faisait circuler l'air par la bouche.
Voilà. Voilà.
Se taire lui aurait collé les lèvres, paralysé le gosier. » Et là, je me dis que c'est vraiment, la musique est aussi un symbole de vie.
De
et
vie,
comment se maintenir, par quelle expression.
C'est vital.
Voilà, c'est vital.
C'est vital. Mais ça représente l'art en général, sans doute, parce que l'auteur, peut-être est-il musicien, nous lui poserons la question quand on le verra. Enfin, il est écrivain surtout, donc la musique est là pour représenter l'art en général, je pense. Mais comme on est à Salzbourg, on ne peut parler que de musique.
C'est une forme de musique, c'est-à-dire pas les fanfares militaires, bien sûr, oui. Pas tout ce qui embrigade et tout ce qui écrase. Au contraire, tout ce qui ouvre le cœur, ouvre l'esprit, c'est-à-dire l'inverse de ce qui était le goût des nazis, oui, à l'époque. Et bon, ils ont annexé Wagner et sans doute ils l'ont déformé. Mais le livre oppose justement un festival, celui qui se passait à Bayreuth et qui donc était à la gloire de Wagner, et le festival de Salzbourg qui était à la gloire de Mozart. Oui. Alors, avec, bien sûr, la préférence, oui, pour Mozart.
Il y a beaucoup de réflexions aussi sur la musique, hein, qui sont, c'est la, le texte est émaillé de réflexions sur la musique qui sont, je crois, toujours fort intéressantes, quelquefois surprenantes d'ailleurs.
Oui.
Puisque il y en a une peut-être que vous aviez repérée, Geneviève.
Alors moi j'ai repéré là, c'est peut-être pour montrer que le regard est vif, oui, le verbe acide, et que on est amené par moments à se réveiller si jamais on avait tendance à trouver la chose peut-être pénible, douloureuse, etc. Je voudrais lire un passage terriblement satirique sur justement le festival auquel il a participé. Alors, il imagine ce festival. J'entends déjà le Festspielhaus, excusez-moi pour mon allemand, résonner d'applaudissements gantés. Je vois la salle, moulure dorée, lustre en cristal, et assis bien en rang, des uniformes de parade trop amidonnés, des bourgeois en frac, de jeunes aristocrates vêtus à la Gatsby avec leurs poupoules, de vieilles comtesses qui ronflent, des SS qui se pavanent au balcon, des maîtres d'académie à Bézicle, et toute cette racaille austro-hongroise qui, bien que huppée à outrance, sent encore la forêt noire. Je les connais tous. J'étais l'un d'eux. Combien de gominas, de cirages à chaussures, d'eau de toilette, de pochettes en soie m'a-t-il fallu employer pour aller écouter de la musique, les peintures de guerre. Et puis il y a des récits de chefs d'orchestre qui malmènent à la matraque quasiment, oui, les musiques qui sont développé, c'est assez, c'est vraiment très vif. Là, il retrouve, oui, un ton très très vif.
Et il cite des chefs d'orchestre célèbres donc à cette époque-là, mais qui ont été célèbres après la guerre aussi, et apparemment pas inquiétés. Il dit je vois déjà Böhm et Lehár brandir leurs baguettes comme des matraques, ce que tu disais. Et ce qui est cocasse, c'est qu'en même temps, il écrit dans le programme, ce sera le premier grand événement artistique d'une civilisation nouvelle qui se lève à Salzbourg, à Berlin, à Munich, à travers tout le Reich.
Double
langage.
Parce qu'il faut aussi que son programme soit accepté par la censure.
Voilà, il donne des gages à la censure, oui, mais il n'en pense pas moins.
Voilà.
Ça, c'est typique, oui, de, oui, la façon de survivre dans un pays totalitaire.
Alors, vous avez entendu quand Geneviève l'a dit, qu'il y avait l'auteur a certainement une grande qualité aussi, une grande faculté de décrire par exemple le concert. Il y a un autre grand moment dans le livre, c'est quand il décrit une rencontre historique qui a eu lieu au col du Brenner entre Mussolini et Hitler. C'est vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un morceau d'anthologie, absolument, c'est formidable. C'est à la fois très 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 décrit et en même temps on y est, on voit ça, c'est très visuel et il y a un côté, alors qu'on a rappelé hier, mais il y a un côté dictateur de Chaplin, quoi. C'est-à-dire, oui, qu'il y a un côté burlesque qui est,
oui,
évident.
Oui, dans le dictateur de Chaplin, il y a exactement l'équivalent de cette rencontre, mais traité sur le mode burlesque. Oui. Mais lui, notre personnage, voit la scène de façon, avec ce recul et ce jugement, donc l'impression qu'il assiste à une scène totalement burlesque.
Il voit et il entend et cette scène. Elle est très sonore,
ouais,
cette scène.
Oui. Mais justement, il dit la mauvaise musique, à ce moment-là dont on parle, la mauvaise musique met raflé les tympans, un boucan de foire, comme dans ces cirques de province où l'on martèle les tambours à l'entrée des acrobates. Toute la solennité de l'événement s'est évanouie d'un seul coup et ma peur avec.
Alors, ce qu'il y a, vous avez compris que c'était un journal, mais que de ce journal, de temps en temps, il y a des lettres aussi. Parce qu'il dit lui-même dans ce journal, Il dit « Je ne me retrouve absolument pas dans ces phrases trop courtes, saccadées, que j'ai pourtant écrites de ma propre main », il dit. Mais de temps en temps, il y a des lettres à son fils, et c'est dans le cadre de ces lettres à son fils qu'il y a en particulier cette longue, ce long récit de cette rencontre au col du Brunner, de Brunner. Je vous rappelle que vous êtes sur CFM, que vous y êtes toujours très bien, du moins j'espère, et que vous écoutez une émission qui vous est proposée par le Cercle de Lecture de Confluence. L'émission arrive maintenant malheureusement à sa fin. Il y aurait eu encore énormément de choses à dire, je crois, tant sur la structure du livre que sur le fond. Moi, je dois dire que, d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, vous m'avez convaincu, je vais le relire. C'est 150 pages. Je vais le relire d'une autre façon, parce que c'est effectivement, en plus de ça, je trouve que il y a dans ce livre une espèce d'affirmation, je dirais, tranquille, qu'un acte de résistance est toujours possible, même à quelqu'un qui est à bout de force, acculé dans le dernier retranchement, qu'il défendrait jusqu'à la mort, et ce qu'il défendra jusqu'à la mort, c'est la musique de Mozart. Je vous remercie, et à bientôt sur CFM pour une autre émission du Cercle de Lecture de Confluence.
Merci, merci. Je crois, Jacques, que vous avez d'ailleurs résumé notre sentiment général, hein, et que la première impression de lecture ne donne pas l'idée de la richesse de ce livre.
Oui. Et je vous rappelle que ce livre est disponible en format de poche, Sauver Mozart, à 6,70 €, et que vous pourrez rencontrer l'auteur lors des prochaines lettres d'automne, qui sont consacrées à Camus, et vous pourrez donc lui poser toutes les questions que vous voulez, et surtout, venir lui dire ce que vous avez pensé de ce livre.